rien pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un bandit.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, 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 nous sommes en avance, nous volons du temps à Radio Canu, mais en même temps c'était les bandes continues, donc nous avons volé du temps aux bandes continues, qui sont pourtant absolument magnifiques, il faut bien le dire. Vous êtes donc à l'antenne de Radio Canu sur le 102.2, ou peut-être, je sais pas, en train de nous écouter en streaming. Vous êtes en train d'écouter le Canu Info avec dans cette équipe qui est revenue bronzée comme il faut, avec un t-shirt. Ma foi, que pouvons dire de ce t-shirt? Il est mieux que celui que tu avais il y a quelques jours. Voilà, et ça c'est un métalleux. Donc c'est Laurent qui était au micro vert, comme moi aujourd'hui, nous sommes tout pareils. Et puis nous avons donc des invités, comme je vous le disais la semaine dernière, en compagnie de Jean-Yves et Fab, que je salue. Nous avons nos amis d'Acrimède de 69. J'ai nommé Vincent et Pascal ce soir, qui viendront nous faire une petite critique des médias, comme nous l'aimons particulièrement. Et on va vous parler plein de choses. Nous allons démarrer ce soir avec une vie en Macronie, ou la vie en Macronie, selon Laurent. Nous parlerons un petit peu santé avec le retour de Monsieur Joyeux. Nous irons faire un petit tour de le côté de la CGT Vinatier. Nous parlerons de bof et de vélo, et non pas de beauf et de vélo. Hein. Oui, ça, c'est... j'ai bien demandé des précisions à Laurent. Ensuite, nous aurons nos sujets sur les médias, avec effectivement l'intervention de nos amis d'Acrimède 69. Et puis, je vous parlerai un petit peu médias par la suite, mais je vais d'abord laisser commencer Laurent avec la vie en Macronie.
Oui, alors quelques petites infos sur ce qui se passe dans la démocratie française actuelle. On va commencer par la réforme constitutionnelle qui est votée au Parlement, qui est discutée pour l'instant, donc en commission. Alors il y a quelques... On dit tout le temps du mal. Là, ils ont fait un truc symboliquement qui est plutôt pas mal, moi je trouve. C'est enlever le mot race de l'article 1er de la Constitution, parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de race. Nous sommes tous homo sapiens sapiens et nous avons quelques différences génétiques dont certaines sont plus visibles que d'autres, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la perte ou non des cheveux pour les hommes, ou la couleur de peau. Mais nous sommes bien qu'une seule et même espèce, homo sapiens sapiens a priori. Donc l'article 1er a été réécrit et on devrait avoir maintenant un texte du genre qui dira « La France assurera ainsi l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion ». Donc ça remplace l'ancienne phrase qui disait « sans distinction d'origine, de race ou de religion ». C'était quand même assez moche. Même si en 46, quand ça a été mis dans la Constitution, c'était dans le but de lutter contre le racisme, en fait. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, depuis, le discours a un peu évolué. C'est d'ailleurs le risque qu'avaient dénoncé certaines assos, enfin qu'avaient pointé certaines assos en disant « Est-ce qu'on ne va pas limiter la lutte contre le racisme ?» Non, ça ne change rien, de toute façon il n'y a pas de race, on le rappelle. Et puis voilà, comme ça on a résolu le problème. Donc c'est plutôt... plutôt positif, hein, c'est le seul truc positif que j'ai trouvé en un an de gouvernement, alors bon, faut quand même le dire, même si c'est symbolique. Alors ce qu'on notera quand même, c'est qu'ils auraient pu écrire un truc encore mieux, tous les citoyens et toutes les citoyennes, mais alors... de la féminiser les choses, ça c'est dans 2000 ans.
Le gouvernement a dit non, mais moi je pense que même le sexe, on aurait pu mettre genre. Mais s'ils peuvent, alors on pourrait aller encore plus loin, hein, voilà. Mais moi, tu sais, j'ai été sur les sites avec des trolls.
De faf.
Ah ben, Le Monde, Le Figaro, avec tout plein de trolls dans les commentaires. Et alors, la disparition du mot race amène une haine et une avalanche de propos absolument délirants. Il paraît que du coup, la République, elle va sombrer.
Ah, bon, de toute façon, si elle sombre, on pleurera pas pour elle. Enfin bon, bref. En tout cas, ce qu'on notera quand même, c'est que sur la féminisation, sur l'ouverture, c'est encore pas gagné. Il y avait l'idée qui avait été proposée à travers un amendement de quelqu'un de La République En Marche, hein, Isabelle Roche, qui demandait à féminiser les titres et les fonctions dans la loi fondamentale, notamment que dans la Constitution n'apparaisse pas l'obligation d'un président, mais d'un ou d'une présidente. Et ça a été rétoqué, et j'ai trouvé un truc assez sympa, c'est Erwan Balanan, qui est Modem, donc centre droit, qui raconte que sa fille de 8 ans ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait y avoir dans la Constitution qu'un président et non une présidente. Donc sa petite fille se pose des questions, c'est bien. Donc lui, il était plutôt pour. Et il a eu une réponse de Éric Diard, du côté des Républicains. Donc on est plus proche de l'extrême droite, du coup, maintenant. Et lui, il a dit, non, mais il ne faut pas confondre le sens de l'histoire et l'ère du temps. Donc en fait, l'idée d'égalité, c'est de l'ère du temps. Et le sens de l'histoire, c'est l'inégalité. En fait, c'est ce qui les porteurs, cet élu de droite du mauvais côté. Hein. Bon, bref. Voilà, ils ont rajouté aussi que la France agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique contre les changements climatiques. Ça sert à rien de le rajouter, c'est juste symbolique, ils l'ont mis, ils sont contents. Hulot pourra dire, j'ai fait une chose dans ma vie, c'est faire écrire un bout de texte dans la Constitution. Donc voilà. Alors ça, c'est en cours, il y a plein d'autres choses bien plus pourries dedans et dont on reviendra peut-être dessus une fois, mais là j'avais pas envie d'en parler, je voulais juste parler de ce petit truc un peu symbolique. Qui montre une micro-évolution de l'état d'esprit des parlementaires. On va revenir au Sénat maintenant, puisqu'il y a en ce moment une préparation du premier passage après le Parlement, de la loi sur l'agriculture et l'alimentation. Et on va reparler des plantes qui peuvent servir comme le purin d'ortie, des choses comme ça, qui peuvent servir d'alternative aux pesticides ou aux engrais chimiques, et qui dont l'utilisation avait été assouplie et élargie en première lecture par les députés. Et les sénateurs sont en train de faire l'inverse, puisqu'ils sont pour l'instant dans la préparation, donc en commission, hein, c'est même la commission des affaires économiques. Ils ont réintroduit l'obligation d'évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, de ces produits qui sont à base de plantes qui sont naturellement pas dangereuses, mais qui, si elles sont utilisées en tant que pour une lutte quelconque biologique, deviennent des produits phytosanitaires, et il faut les faire passer devant l'Agence nationale d'évaluation, ce que personne n'a les moyens de faire, hein, puisque c'est des produits qui sont utilisés par personne dépendant de l'industrie, et c'est l'industrie qui a les moyens de payer les études. Et l'assouplissement disait une chose, hein, si l'ortie, on peut la manger, ben, ça veut dire qu'on peut la mettre aussi sur les plantes sans risque, et c'est pas con comme remarque, hein. En général, les produits qu'on peut manger, ils sont pas dangereux à nouveau pour les autres plantes et donc indirectement pour notre santé. C'est un peu un truc un peu simpliste scientifiquement, mais qui marche bien grosso modo. Et là, bon, les sénateurs ont dit non. Alors c'est pas fini, c'est pas définitif, mais c'est mal parti. Alors on sent bien qu'ils sont sous la pression des lobbies de l'industrie des pesticides et des engrais chimiques. Et il y a un truc quand même très très drôle, parce que vous savez qu'en France aujourd'hui, les villes n'ont plus le droit, n'utilisent plus, hein, parce qu'il y a eu des textes de loi, de produits justement de pesticides chimiques, des choses comme ça. Et c'est le cas d'ailleurs du palais des jardins du Luxembourg, hein, qui sont attenants au Sénat, qui utilisent du purin d'ortie ou des choses comme ça. Donc c'est déjà utilisé là où siègent les sénateurs, mais ils sont contre. C'est quand même incroyable, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, on n'a jamais dit que les sénateurs étaient intelligents et ouverts non plus. Toujours dans la Macronie, deux petits mots sur Parcoursup. Il y avait une requête en référé de parents contre Parcoursup parce que leur enfant n'avait pas été pris dans les vœux qu'il avait fait. Le tribunal administratif a rejeté mardi la requête en disant que la procédure, de toute façon, elle n'est pas finie. Effectivement, la procédure n'est pas finie. Hein. Il y a 44% des 812 000 candidats qui peuvent se prévaloir d'une inscription fermée d'étive définitive pour la rentrée prochaine. Donc, il y en a plus de la moitié qui, pour l'instant, n'ont pas de réponse définitive. Grosso modo, il y en a même 130 000 qui sont pour l'instant en situation difficile. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, fait des promesses à tour de bras en disant que tout le monde va avoir une place, etc. Sauf qu'ils vont obliger en fait les jeunes à aller dans certaines filières et pas du tout là où ils avaient envie d'aller, puisqu'on rappelle que dans les filières en tension, que sont STAPS notamment et sociaux, STAPS et sociaux, il n'y a pas d'ouverture de classe. Du coup, comme il y a plus d'élèves cette année, il y a des chances qu'il y ait aussi plus d'élèves qui se présentent dans ces sections. Donc voilà, Parcoursup, c'est quand même juste du bonheur. Et surtout du stress pour les élèves. D'ailleurs, on va avoir les résultats du bac très bientôt. Alors, on sait que le bac, toutes les notes sont réévaluées, mais on va voir si jamais il n'y a pas une baisse des résultats, parce qu'il y a une partie des élèves qui ont été très démotivés, notamment dans certains lycées de zones un peu plus difficiles, où sur des classes, il y avait entre 80 et 90% des classes, des élèves dans ces classes-là, qui n'avaient aucune réponse avant le bac. Du coup, il y en a qui disaient, ça sert à quoi d'aller passer le bac, de toute façon, je suis pris nulle part. On risque d'avoir une baisse de résultats au bac. Ceci dit, c'est pas sûr, hein, parce que je vous rappelle qu'on remonte toutes les notes pour avoir les bonnes moyennes. Si vous avez jamais corrigé d'examen du bac, je peux vous le raconter, c'est comme ça que ça se passe. On a un objectif de notes et on l'obtient, quoi qu'il arrive, quelle que soit la qualité des copies. C'est pas un secret de Polichinelle, tout ça, mais voilà. Je continue une petite rubrique sur la santé avec on avait souhaité à l'antenne, mais on s'était réjoui de la radiation de l'ancien docteur et un nouveau docteur, enfin médecin on dit, Henri Joyeux.
Alors on a déjà parlé de ce monsieur Joyeux à plusieurs reprises pour ses propos anti-vaccin par exemple, et puis pour ses ouvrages plutôt critiqués, on va le dire, par le reste de sa profession.
Et l'ensemble de la communauté scientifique, puisque a priori c'est un médecin qui a l'air d'avoir des problèmes de raisonnement scientifique. En tout cas, il avait été radié et là il a été sa radiation a été annulée en fait en appel par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Alors c'est complètement indépendant du Conseil national de l'ordre, mais du coup ils ont ce pouvoir d'annuler la décision en disant que c'était pas suffisamment motivé, que ce qu'il faisait ça rentrait dans le cadre de la liberté d'expression. Alors bien sûr ici on défend la liberté d'expression, vous imaginez bien. Mais là quand même, c'est un médecin qui s'exprime, et quand on tient des propos anti-scientifiques, voire dangereux pour la santé des autres, c'est un petit peu inquiétant, quoi. Et il y avait quand même deux choses qui étaient mises en avant, deux pétitions. La première, la seconde, c'était sur la nouvelle forme des vaccins, là où on a beaucoup de vaccins en même temps. Avant, on avait trois vaccins, le DT polio, que nous, on a tous connu, et qui nous a sûrement sauvé la vie quelque part, en tout cas empêché d'attraper la polio. Et donc, la nouvelle forme d'un vaccin qui est qualifié de hexavalent, hein, ça soigne 6 infections, avec ce fameux aluminium comme adjuvant qui poserait problème au niveau de la santé, ce qui n'est bien évidemment pas démontré, sinon ça serait déjà retiré. D'ailleurs, rien n'empêche Henri Joyeux de faire des démonstrations scientifiques et de publier dans des revues sérieuses, mais il ne l'a jamais fait, bizarrement. C'est facile d'accuser sans preuve. Et puis, la première pétition, elle, c'était sur le vaccin dont je vais reparler tout de suite, contre les papillomavirus, puisqu'il y avait une idée de baisser l'âge de vaccination des filles, et finalement ça n'a pas été fait, mais lui il avait fait une pétition contre ça. Et on va revenir sur ce vaccin, parce que c'est un gros problème de santé publique qui est totalement ignoré aujourd'hui. Il y a des pays qui sont très en avance sur la France, hein, c'est l'Australie. L'Australie, ils ont prévu que d'ici 20 ans, ils vont faire disparaître totalement le cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus, pendant très longtemps, on pensait que c'était donné en partie par le virus, ce papillomavirus. Aujourd'hui, c'est majoritairement, voire presque entièrement, par ce virus. Donc, que font certains pays ? Ils décident de vacciner les jeunes filles et de vacciner les garçons aussi. Parce que les garçons sont porteurs et transmettent le virus. Alors, souvent, d'ailleurs, les garçons hétéros, parce qu'on va parler, parce que, alors, pour le coup, alors, je parle des hétéros d'abord, ils sont porteurs sains souvent, on dit porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ne déclenchent pas la maladie, par contre, ils la transmettent aux autres. Pour les hétéros, pour les homos, la problématique est différente, puisqu'ils transmettent avec ce virus le cancer de l'anus. Donc là, il y a un problème de santé publique qui se rapproche du problème qu'ont les jeunes filles et les femmes, du coup, avec ce virus-là. Mais, donc il y a des idées qui courent en ce moment de généraliser la vaccination aux garçons, donc aux hommes, aux futurs hommes, et de la généraliser aux jeunes filles. Aujourd'hui, c'est 20% des filles en France qui sont vaccinées. Ça suffit pas, hein, il faut être entre au moins à 70% de vaccinés pour avoir une chance de faire disparaître ce virus. Et ce qu'on note, c'est assez peu de gens parlent d'autres cancers. Et en fait, en France, on est en retard sur la détection de la cause des cancers ORL, que sont les cancers de la langue et les cancers de la gorge. Parce qu'en fait, j'ai découvert très récemment, grâce au métal, comme tu dis, qu'on peut et au chanteur d'Iron Maiden, qui a eu un cancer de la gorge et un cancer de la langue, qu'en fait, ils ont déterminé que son cancer était lié à ce virus, papillomavirus, parce qu'il était non-fumeur et qu'ils ont vraiment déterminé que c'était cette cause-là. Et on se rend compte aujourd'hui, dans les études internationales, que même pour beaucoup de fumeurs, c'est pas le tabac, en fait, qui est à l'origine de cancer de la gorge ou de cancer de la langue, mais c'est ce virus. Donc il y a aussi un problème de santé publique là-dessus et qu'on lutte pas. En France, aujourd'hui, les gens qui ont un cancer de la gorge ou qui ont un cancer de la langue, il suffit qu'ils aient fumé pour qu'on ne fasse pas du tout d'analyse pour chercher la cause, parce qu'on estime d'office que c'est la cigarette qui est responsable sûrement en partie, mais aussi ce virus-là. Donc ça pourrait aussi permettre de lutter contre ces cancers ORL. Alors voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus, je voulais en reparler, puisque c'était l'occasion de reparler à travers les propos indéfendable du médecin Joyeux, de reparler de ce papillomavirus et de la généralisation qu'on espère de ce vaccin.
Oui, et ce qu'on pourrait aussi signaler, c'est qu'en France, on est très en retard sur l'information sur la sexualité, parce qu'on sait aussi que se protéger, c'est être au courant, c'est s'informer, c'est partager, et pas partager les maladies, mais partager bien l'information, et qu'aujourd'hui, en France, on a fait un bond en arrière. J'ai l'impression qu'il y a eu une génération qui a pu à un moment profiter d'une information avec malheureusement l'arrivée du sida. On s'est mis d'un seul coup à avoir des publicités un petit peu, le planning familial on était soutenu un petit peu, en tout cas il y avait des organisations, des organismes qui pouvaient un petit peu militer, qui pouvaient communiquer quand c'était des organisations de santé, pas forcément militantes. Et puis peu à peu on a l'impression que même sur le sida ça se délite, et puis que alors on parle un petit peu de manière ciblée aux gays, mais alors surtout quand finalement on va dans les clubs, hein, parce qu'on se dit que ils vont dans les clubs, donc c'est là où ils vont baiser. Mais on s'est sorti un petit peu aussi du milieu scolaire, parce qu'il y a eu aussi une mouvance qui pense qu'il ne faut pas parler de sexualité, parce que si on en parle, ça va amener les plus jeunes à faire l'amour, à avoir la pratique, comme si la théorie amenait forcément la pratique. Et ce qui fait que, en force de cacher cette sexualité, on la laisse dans l'ombre, alors qu'elle est bien existante. Il faut arrêter de penser que les jeunes filles, les jeunes garçons n'ont pas de rapport sexuel, quel que soit leur âge. Les enquêtes sont plutôt montrées qu'en plus, il y a des pratiques qui existent et qui sont bien présentes et qui sont plutôt portées en plus dans certains secteurs par la pornographie, donc c'est par une sexualité un peu spécifique qu'on pourrait réserver à des gens qui ont plutôt une pratique, plutôt qu'à des gens qui débutent dans la sexualité. Et cette information aujourd'hui, moi je la trouve plutôt inexistante en fait, même en tant que femme adulte, elle n'existe pas, et je trouve que c'est bien dommage et que l'État là manque à ses devoirs. Et en plus de ça, on sait qu'aujourd'hui le planning familial n'est pas accompagné, manque de moyens, manque de personnel, et c'est là où il y a une défaillance en France, alors que dans d'autres pays, il y a des choix un peu plus judicieux qui amènent du coup une information et donc du coup aussi à se protéger, à réutiliser la capote. Refaisons des publicités aussi gouvernementales pour l'utilisation du préservatif, de la capote. Ça évitera bien des malheurs, bien des désagréments, puisque toutes les maladies n'amènent pas à des situations dangereuses et mortelles, mais bien des désagréments.
Même si une maladie soigne, il vaut mieux pas l'attraper non plus.
Ça évite de la transmettre voilà. Aussi.
D'ailleurs, je te rappelle quand même que quand il y a eu ces derniers temps, quelques campagnes d'affichage sur le préservatif, les croyants, certains assauts de croyants sont montés au créneau pour dire que c'était inadmissible de parler de sexualité sur des affiches. Alors que d'habitude, on vend du beefsteak ou on vend de la chaussure, quoi. C'est mieux de vendre de la chaussure que de parler de prévention.
Alors, on va continuer dans la santé, si tu veux bien. On va être solidaire avec le communiqué que j'ai reçu de la CGT Vinatier. Non au paiement des chambres individuelles par les patients et les patientes. Être hospitalisé au Vinatier, c'est 30 euros la nuit. On apprend donc dans ce communiqué très simple mais très efficace, je trouve, que ça y est, c'est officiel. La direction de l'hôpital du Vinatier va faire payer un supplément pour les chambres individuelles aux patients et patientes qui ont une mutuelle. Entre parenthèses, il nous est rappelé que toutes les chambres du nouvel hôpital sont des chambres seules. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, on va payer. Alors évidemment, la CGT nous rappelle être fermement opposée à cette démarche, que la direction veut se faire de l'argent sur le dos des patients et des patientes, je les cite. Je dis patients et patientes parce que le texte est féminisé, hein. Ce n'est pas une invention de ma part. En expliquant que la direction n'a honte de rien, que la direction prévoit de faire envoyer un courrier par le bureau des entrées au domicile des patients et patientes sans lui faire signer d'accord, et la facturation se mettra automatiquement en place. Cela s'appliquera même si les patients et les patientes sont hospitalisés sous contrainte. N'est-ce pas merveilleux le capitalisme dans la santé ? Le seul recours à pronto qu'auront les patients et les patientes sera de renvoyer un courrier à l'hôpital pour s'y opposer. Hein, c'est vrai que c'est pratique quand vous êtes hospitalisé de force, hein, comme ça c'est peut-être pour votre bien, mais en tout cas c'est toujours pratique. Et puis ça fait pas des soucis à la famille, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc la CGT Vinatier se demande quelle sera la prochaine étape. Nous rappelons que certains hôpitaux psychiatriques ont déjà mis en place le paiement des chambres individuelles, ont parallèlement déjà ou vont mettre en place le paiement des consultations de psychiatrie en CMP. C'est le cas à Niort, donc c'est 13,20€ la consultation si on est orienté par son médecin, 27,30€ si on vient soi-même consulter. Et donc la question, c'est de savoir quand ça va arriver et se passer au Vinatier. Donc la CGT Vinatier continue à militer pour un accès libre et gratuit, pour une sécurité sociale pour tous et pour toutes. Voilà, et rappelle simplement que là, la notion de service public est remise en cause et que c'est une partie de l'hôpital qui sera donc financée par les mutuelles. Bah oui, puisque maintenant, je vous rappelle que quand vous travaillez, vous avez peut-être une mutuelle obligatoire. Hein, je dis peut-être parce que vous pouvez faire un mot en disant que non, vous en avez déjà une ailleurs. Votre employeur peut aussi vous demander de prouver par un petit papier que vous avez une mutuelle ailleurs. En général, l'employeur, j'ai un peu questionné autour de moi, ne le fait pas. Comme ça, ça évite de sortir des sous, hein, parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même des salariés qui sont mal payés, qui sont précaires et qui estiment pouvoir faire quelques économies, comme ça. Ce qui, c'est toujours mal pensé, hein, de faire des économies sur la santé. Mais enfin, quand vous avez des paniers très très petits, à 20€, par exemple, à partager, hein, en deux, 50-50, en général, ça peut être que dans ces paniers, il y a très peu de choses qui sont remboursées. Donc, quand la mutuelle prend très mal en charge certaines hospitalisations, certains médicaments, certains accès aux soins, donc c'est un très mauvais pli qu'on est en train de prendre en faisant payer aux mutuelles, soi-disant nos soins, alors qu'on sait que certaines mutuelles ne vont pas les prendre en soins et qu'au final, on finit tous et toutes par payer. Et puis, c'est une privatisation, encore une fois, du soin public et de l'accès. Et donc, voilà, j'avais juste envie de vous raconter ce nouveau communiqué de la CGT Vinatier, cette nouvelle lutte en place.
Bon, eh ben, je vais faire une très courte rubrique énergie-environnement autour du bœuf et du vélo.
Alors, j'ai pas compris, on va parler bœuf et vélo ou bœuf puis vélo?
Alors, c'est bœuf puis vélo, c'est deux infos qui n'ont rien à voir.
Et alors, en fait, donc, c'est bien bœuf, c'est pas bouffe.
Voilà, c'est bien bœuf, la viande.
L'animal.
L'animal, la vache, quoi.
Ah, c'est pas pareil. Ah, excuse-moi. Ouais. On peut faire un peu de biologie, si tu veux, animalière. La vache et le bœuf, c'est pas pareil. Bon, il y a le taureau aussi, si tu veux.
Ouais, donc, on va parler de bœuf.
D'accord.
Ou de vache, comme tu veux. Je vais juste lire le communiqué de la Confédération paysanne. Je vais le lire pour une fois en entier. Alors que le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé lundi, lors d'un déplacement à Pékin, la prochaine reprise des exportations de bœuf français en Chine à la faveur de la signature d'un protocole sanitaire entre les deux pays, les tenants de l'interprofession Interbev, c'est le nom du truc technique sur le bœuf et les exportants de bœuf. Les tenants de l'interprofession Interbef se frottent déjà les mains. Et pour cause, seuls quelques industriels de la viande ont eu la possibilité de demander un dossier d'agrément et de candidater sur ce marché. Ce sont ces mêmes industriels qui ont rechigné il y a quelques mois à diffuser leur compte devant les députés, ou encore qui ont exclu les éleveurs de la discussion sur la redistribution de la valeur ajoutée sur les steaks hachés au sein des travaux de l'interprofession. Ce sont eux aussi qui viennent tout juste de revenir sur leurs engagements de payer la viande label rouge au niveau du coût de production, alors qu'il s'y était engagé il y a quelques mois. Comment dès lors penser que cette levée de l'embargo chinois, présentée par le gouvernement comme une magnifique opportunité, profitera réellement aux éleveurs. La filière se complaît dans le discours libéral du gouvernement, selon lequel l'impact du CETA, de l'accord Union européenne-Mercosur, Union européenne-Mercosur, sur nos revenus sera compensé par les exportations vers la Chine. Soyons lucides, cette mise en avant de l'export ne va servir que les intérêts de ces industriels. A l'inverse, les éleveurs se verront contraints à la standardisation de leur production et se verront imposer des diktats sanitaires des pays importateurs. Il faut cesser cette fuite en avant dans l'industrialisation des systèmes d'engraissement bovins. La solution pour les éleveurs n'est pas dans le mirage de l'export, mais bien dans la nécessaire relocalisation de notre alimentation. La réponse aux attentes du marché intérieur et la régulation des volumes. C'est pourquoi la Confédération paysanne exige d'en finir avec toutes les négociations de libre-échange, de redonner un véritable rôle régulateur à l'aide aux bovins allaitants et d'enclencher une véritable montée en gamme pour répondre aux attentes des citoyens grâce notamment à la prise en compte de nos coûts de production. Alors je pense à un coup de gueule, donc suite effectivement à la glorification par le Premier ministre de l'ouverture de la possibilité de réexporter du bœuf en Chine, qui est une belle aberration. Puisqu'on va exporter du bœuf et puis la Chine, on va importer des légumes bio de Chine par exemple, alors qu'au lieu de faire ces échanges, eh ben, on pourrait chacun produire le truc dont on a besoin, chacun de notre côté. Donc voilà, je voulais relire ce communiqué de la Confédération paysanne qui rappelle que l'important c'est de se nourrir localement et qu'on n'a pas besoin d'exporter, et ils le précisent bien, ils n'ont pas besoin d'exporter pour vivre en fait, à part peut-être les gros industriels, mais eux, on n'en a que faire. Et puis le petit mot sur le cycliste, le vélo. Il y a un cycliste qui s'est fait renverser mardi dans le 3e arrondissement de Lyon, il est mort. Donc l'assassin qui était au volant de son camion a justifié de manière assez habituelle, le cycliste était dans son angle mort, donc il a tourné, il ne l'a pas vu. Forcément. Vous qui faites du vélo, vous savez très bien comment ça se passe. Vous savez très bien que les gens qui tournent à droite, c'est pas un angle mort qu'ils ont, c'est qu'en fait ils regardent jamais, puisqu'ils sont assez proches des voitures garées et ils oublient qu'il peut y avoir un cycliste sur la piste cyclable qui passe à côté. Bien évidemment, l'assassin, le camionneur assassin, ne sera vraisemblablement pas poursuivi pour le meurtre du cycliste, puisque l'arme par déposition, hein, c'est le nom qu'on donne à un véhicule quand il sert à tuer les autres, est rarement utilisé par la justice. En général, on considère juste ça comme un accident, comme si c'était si facile de tuer les autres avec sa voiture. Le même acte avec un couteau, par exemple, à la main, on se balade avec un couteau, on plante dans quelqu'un, c'est jamais considéré comme un accident. Alors, il faut dire qu'on se ramballe rarement avec un couteau à la main, même si l'exemple est un peu surfait, comme ça, c'est un peu artificiel. Mais c'est pour dire qu'il y a une autorisation de l'utilisation mortelle des véhicules qui est faite, et on se pose jamais de questions, alors que c'est peut-être un vrai accident, mais en fait on va jamais enquêter pour vérifier si c'est un vrai accident. D'office, quand un camion tourne sans regarder, c'est un accident, et donc le cycliste en est mort. Voilà, j'ai fait un truc un peu pas drôle, et maintenant vous allez pouvoir parler des médias, parce que c'est jamais drôle non plus.
Donc tu viens donc de lancer nos deux amis, je rappelle Vincent et Pascal, qui sont venus nous parler des mouvements sociaux et de la manière dont tout ça a été traité, n'est-ce pas ?
Oui, alors donc je vais commencer.
C'est Pascal qui va prendre donc le début.
Voilà, bon, c'est aussi un peu drôle hein, quand on lit les médias. Il faut avoir un œil qui nous permet de décrypter les choses et de prendre un peu de distance à l'égard de ce qui est dit, même si les temps sont durs. Alors j'aurais peut-être commencé par dire que bah, effectivement sur la question des mouvements sociaux, comme l'association Acrimed est elle-même née en 1996 d'un mouvement social, donc on est un petit peu habitué à traiter ce genre d'actualité. Alors, il y a eu un petit livre qui a été publié il y a plusieurs années qui s'appelait « Médias et mouvements sociaux ». Et puis pour ce qui concerne les deux sujets qu'on va aborder, Vincent et moi, à savoir pour Vincent la question du traitement médiatique du mouvement étudiant, et pour moi la question du traitement médiatique des mobilisations des cheminots, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'articles qui ont été publiés sur le site. Alors, j'avais prévu peut-être de donner les titres, mais peut-être c'est trop long, mais on peut que renvoyer les personnes qui écoutent cette formidable émission éventuellement d'aller jeter un œil, parce que c'est une mine d'informations sur la façon dont les choses. Alors nous, on peut donner simplement une petite impression, mais on peut prolonger en allant un peu sur le site, voir ce qu'il en est. Alors pour aborder la question du traitement médiatique par les médias mainstream de la question de la grève des cheminots, je voudrais mettre simplement en exergue une formule qui a été utilisée par Frédéric Lordon, qui est un économiste bien connu du mouvement social, qui a dit dans une intervention publique « On ne nous aura rien épargné ». Alors effectivement, comme il était possible de s'y attendre, on a eu le droit avec le mouvement contre les de grève des cheminots à une véritable déferlante antisociale particulièrement décomplexée sur les plateaux de télévision, dans la presse quotidienne et magazine, à grand renfort de micro-trottoirs dans les gares, vous savez, auprès des usagers, on est habitué, de sondages d'opinion réalisés à l'appel, d'experts venus expliquer sur tout le bien qu'ils peuvent penser sur tous les plateaux de télévision et ailleurs, tout le bien qu'il faut penser de la réforme de la SNCF, des vertus de la concurrence supposée profiter aux Français, et de toute façon du fait que cette réforme est absolument incontournable. Donc on a affaire à un gouvernement et à des médias thatchériens, puisqu'ils nous expliquent systématiquement ou tout le temps qu'il n'y a pas d'alternative. Alors il faut dire que les grévistes et l'insert syndical des cheminots, ils l'ont bien cherché quand même. Je rappelle qu'ils ont eu la bonne idée au mois d'avril, après plusieurs mois déjà de mobilisation, de lancer un mouvement de grève perlée, deux jours de grève tous les cinq jours, et pour prendre en otage, pour reprendre le vocabulaire consacré le public, et pour défendre leur statut de privilégié, bien sûr. Alors, et très vite, comme d'habitude dans ce genre de situation, les journalistes, quand on les écoute un peu dans le détail, ils se donnent une noble mission, celle qui consiste à savoir si les grévistes peuvent ou non gagner la bataille de l'opinion. Alors ça, c'est des choses qu'on entend ça et là. Alors c'est intéressant, quand ils évoquent cet argument, de présenter les choses comme ça, parce que ça place les journalistes en position d'arbitre. Ils sont des arbitres qui seraient neutres et qui ne feraient que relayer les réactions des usagers ou du grand public, et qui ne contribueraient en rien eux-mêmes, évidemment, à construire cette même opinion au travers de leurs choix éditoriaux, bien sûr. C'est aussi une façon pour les journalistes de se présenter comme étant du bon côté, c'est-à-dire du côté des usagers, des Français, de défendre en gros la veuve et l'orphelin, face à l'égoïsme des cheminots qui ne penseraient à eux et ne se soucieraient pas du tout de l'intérêt général. Alors il faut dire aussi que ce tribunal de l'opinion, au passage, c'est très éloigné de ce qu'est une grève, puisqu'une grève dans un secteur professionnel, c'est pas fait pour séduire l'opinion, bien entendu. C'est une défense des revendications devant un employeur, ici en l'occurrence l'État, qui impose une réforme du statut des salariés et qui décide de rendre possible le passage au privé d'une entreprise nationale. Donc c'est donc d'abord un problème interne à l'entreprise SNCF dont il est question, et des choix qui sont faits et qui vont concerner indirectement, en tout cas plus tard, les usagers au travers de la politique de tarification, pardon, qui sera modifiée bien entendu, au travers du problème de la sécurité des transports qui est à venir, au travers aussi du développement du réseau ferroviaire sur tout le territoire. Est-ce qu'on va continuer à fermer les petites lignes, etc. Alors pour illustrer un petit peu cette bataille de l'opinion, alors j'ai choisi de faire un petit condensé assez rapide et simple en prenant l'exemple du journal Le Figaro. Alors Le Figaro, bien sûr, c'est un journal de la droite conservatrice et libérale, qui s'est un petit peu malgré tout, qui a un petit peu changé son discours avec Macron, puisque comme Macron est président de la République et qui peut vendre des rafales, donc il faut effectivement un peu faire le dos rond face à ce nouveau gouvernement. Alors pourquoi parler du Figaro sur les antennes de Canu Info? Ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à un autre ouvrage qui avait été fait par un des membres d'Acrimed qui l'avait intitulé de la façon suivante: tous les médias sont-ils de droite?
Je te rappelle que nous parlons souvent du Figaro ici.
Oui, d'accord.
Autre exemple, gêne, allons-y.
D'accord, donc c'est un truc assez intéressant, parce que finalement, on pourrait dire que le Figaro représente à peu près l'air du temps aujourd'hui, bien plus largement que lui-même. Alors si on fait une recherche très très simple sur le moteur de recherche du Figaro, on va sur la page, on tape grève et SNCF, comme je l'ai fait, il y a 3622 occurrences qui apparaissent, peut-être que ça ne concerne pas le dernier mouvement. Et donc, quand on regarde le détail, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les articles qu'on peut voir défiler les uns après les autres, jamais je n'ai trouvé le moindre article où l'on donnait la parole à un syndicaliste. Jamais je n'ai trouvé le moindre article où on faisait la place, on pourrait dire, à un débat de fond hein, sur ce changement. Vous allez voir quel type de débat de fond. Alors, je vais égrener ici quelques-uns des articles et vous allez voir de quelle façon nous sommes matraqués voilà, et quel type de sujets sont proposés dans cette bataille rugueuse de l'opinion par les journalistes de ce vénérable quotidien, Le Figaro. Alors donc, évidemment, c'est une toute petite sélection, hein, on aurait pu en faire bien plus. Voilà, donc ça commence par le thème de la perturbation. Donc, vers un jeudi noir à la SNCF, c'était le 21 mars. La SNCF s'enlise dans la grève. C'était au moment où il y a une participation élevée des manifestants, le 6 avril. Grève à la SNCF, le trafic encore perturbé, le 8 avril. La gare de Lille bloquée par les cheminots, le 17 mai. Un mardi encore marqué par les perturbations, le 28 mai. Alors, dans la catégorie débat et analyse, j'en ai retenu deux, mais évidemment, il y a pléthore. Hein. Les analyses de Figaro et les débats, c'est du type suivant. Comprenez-vous la grève à la SNCF ? Ça, c'était le 22 mars. Droit de grève à la SNCF, ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Ça, c'était le 5 avril. Alors, les sondages, bon, voilà, on ne va pas échapper à la rubrique. Donc, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les sondages évoluent. Et puis, finalement, on ne sait jamais, à travers les sondages, si finalement, quand les sondeurs interrogent les personnes, si elles ne collectent pas l'opinion dominante et l'air du temps qui se développe, notamment dans les médias. Donc, on ne sait pas si c'est au fond, c'est une opinion préfabriquée que les sondages enregistrent. Ou pas. Alors donc, le 23 mars, donc le Figaro faisait un article sur les Français opposés à une grève reconductible, puisque c'était le sujet du moment. Le 6 avril, le soutien des Français à la grève baisse. Le 22 avril, les Français toujours opposés à la grève. Le 6 mai, grève injustifiée pour la majorité des Français. Le 3 juin, grève SNCF, injustifiée pour 58% des Français. Et le 25 juin, 75% des Français contre la prolongation de la grève. Enfin, on voit, ça évolue. À mesure que, finalement, on martèle, voilà, on collecte un petit peu les résultats de son travail de fourmi. Coût économique aussi de la grève, thématique qui revient régulièrement, effectivement. Alors c'est comme ça, effectivement, qu'on va présenter les effets du mouvement de grève. Alors, le 24 avril, parmi de nombreux sujets sur ce thème, j'ai retenu la grève à la SNCF pénalise la filière céréalière. Le 31 mai, la grève coûtera 400 millions à la SNCF. Le 23 juin, la grève et les intempéries n'ont pas arrangé les affaires des commerçants. Essoufflement, alors il y a le thème de l'essoufflement, toujours très présent, donc il commence assez tôt, enfin, voilà. Alors évidemment je ne suis pas remonté jusqu'au début du mouvement, mais bon, on trouve ça assez facilement. Donc le 24 avril, grève à la SNCF, la participation se stabilise. Alors là on était encore dans une période où les articles n'étaient pas trop agressifs. Un peu plus tard, le 22 mai, grève à la SNCF, la mobilisation s'essouffle. Le 7 juin, grève à la SNCF, la mobilisation est en berne, mais les conducteurs s'acharnent. Alors, il y a toujours un petit noyau dur, vous savez, c'est comme Astérix hein, devant l'occupation romaine. Grève à la SNCF, la mobilisation des cheminots, le 25 juin, commence à s'effriter. Et puis aussi, alors les épisodes allant, et puis le temps passant, deux autres thèmes apparaissent, voilà, le baccalauréat. Alors est-ce que la grève à la SNCF va empêcher les élèves d'aller au baccalauréat ? Alors on passe du questionnement à la stupeur, hein, voilà, le 8-6, grève à la SNCF. Le bac divise les syndicats. Alors déjà, on commence à dire que même si certains d'entre eux ont dit qu'ils feraient grève, voilà, l'UNSA et la CFDT on commence à douter. Le 8-6 toujours, le Figaro, qui est toujours du côté des lecteurs et toujours là pour leur rendre service, s'interroge pour savoir comment arriver à l'heure au jour du bac. Le 8-6 toujours, il nous fait état de la comment on peut dire, la déclaration du numéro 1 de la CFDT, M. Berger, qui dit qu'il ne souhaite pas qu'il y ait grève les jours de bac. Et le 14-6, il ils reprennent un peu l'argumentaire, mais pour dire que cette fois, qu'il y aura bien grève avec le bac, pendant le bac, puisque la CGT et Sud ont décidé ça. Et puis le 14 juin, donc le Figaro trouve utile de faire une vidéo pour dire comment la SNCF a d'ores et déjà prévu un dispositif spécial examen. Voilà. Et puis les vacances sont gâchées. Voilà, les vacances sont gâchées. Alors ça démarre assez tôt, puisque là, il y a Guillaume Pépi, là, le directeur de la SNCF, le président de la SNCF, qui fait des déclarations très tôt, le 22-04 avril, pour dire « il n'y aura pas de grève cet été ». Un peu plus tard, comme évidemment cette prophétie ne semble pas aller d'évidence, et puis qu'il sent que les syndicats vont quand même continuer leur mouvement de grève malgré les tollés médiatiques. Donc il explique le 25-05 que les cheminots n'ont pas envie de gâcher les vacances des Français. Bien sûr. Le 19-06, faut-il craindre, nous dit le Figaro, des grèves pour les départs des grandes vacances ? Et puis, ils se réjouissent le 19-06 et le 26-06 du fait que l'UNSA ne continuera pas la grève en juillet et que la CFDT, cheminots, ne fera pas grève non plus cet été. Alors, on le voit, il n'y a pas de débat de fond. La parole des cheminots est inexistante, mais la litanie sans fin des perturbations et des effets négatifs de la grève pour toutes les catégories d'usagers et pour toute la société française. La bataille de l'opinion est bien menée, mais à armes particulièrement inégales.
Eh bien, écoute, on rappellera que c'était la dernière journée prévue par l'intersyndicale aujourd'hui, ce jeudi 28 juin. Moi, j'aurais quand même insisté sur le fait qu'il y a eu une intersyndicale à la SNCF. C'est quand même assez incroyable, parce que l'UNSA, la CFDT, on ne les connaissait pas aussi engagés jusqu'à présent. Donc, on se rend bien compte que pour Sudrail, c'était un peu douloureux de faire ce machin à la loterie. Hein. C'est pas moi qui invente le mot, hein. C'est bien eux qui l'avaient mis dans un communiqué. Je trouvais que c'était plutôt bien trouvé. On avait un peu l'impression d'avoir sa grille de loto et puis de, vous savez, 22, 18, 43. Donc, bon, il n'y a pas de 43 dans le mois, mais enfin, vous voyez, je trouvais que Sudrail avait bien inventé ce terme. Mais il y a quand même une intersyndicale, et ça c'est fort quand même dans une entreprise aujourd'hui d'avoir une telle intersyndicale, et c'est pas une petite entreprise, parce qu'il y a des tas d'entreprises où les syndicats arrivent à se retrouver. Là c'est quand même la SNCF, et on avait des syndicats qui ont lutté ensemble, chacun un peu de son côté parfois certes, mais quand même jusqu'à aujourd'hui, et je trouve que c'est plutôt chouette. Alors maintenant ça a l'air un peu de partir dans tous les sens, mais certainement parce qu'il y a aussi des cheminots cheminotes qui auraient bien aimé aller en grève illimitée et pas être sur cette grève perlée. Ça, on sent qu'il y a un petit peu quand même de la rancœur, mais il y a quand même eu des gares où il y a eu des grèves illimitées, c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup parlé de ces grèves finalement perlées, mais il y a eu des endroits où les gens ont été en grève du lundi au dimanche et du lundi au dimanche suivant et ainsi de suite. Ça a été une minorité, mais cette minorité, elle a existé, elle était là, et ça, y a toujours un petit peu des rebelles dans certains syndicats. Je voulais dire aussi que, pour être dans ton sens aussi sur ces pourcentages et sur ces chiffres, moi j'ai beaucoup des fois entendu le fait de dire qu'il n'y avait que 10% qui avaient en fait été la grève, parce qu'on voulait aussi nous séparer les salariés et les roulants. Pour nous faire croire que finalement il n'y a que les roulants qui sont vraiment importants dans ce mouvement. Et je trouve aussi que certains médias ont un peu joué sur ces participants et participantes. Est-ce que c'était des gens qui sont dans les trains? Est-ce que c'est des gens qui sont dans un bureau? Comme si on allait faire du corporatisme au sein de la SNCF et vouloir nous-mêmes les séparer à leur place. Voilà, il y avait aussi ça que j'avais envie de rajouter. Autre mouvement social qui a aussi eu son traitement médiatique, c'est les étudiants et les étudiantes.
Oui, de toute façon, Pascal a dit avec l'essentiel, Vincent, pour ce qui concerne l'ensemble des mobilisations sociales, on retrouve un peu les mêmes biais en termes de traitement médiatique, mais pour les mobilisations étudiantes, il me semble qu'il y a un truc un peu particulier, c'est qu'elles sont très symptomatiques en fait, du reste du traitement médiatique, et que tout se passe un peu comme si la jeunesse des personnes mobilisées libérait la parole des journalistes sur fond, évidemment, de paternalistes. Alors j'ai relevé J'ai relevé trois biais un peu récurrents hein, qui ont présidé au traitement médiatique de ce mouvement là au printemps. Le premier de ces biais, c'est évidemment de dire que les étudiants et les étudiantes mobilisés seraient pas concernés par les réformes qu'ils dénoncent. Et ce printemps encore, on a eu droit à toute cette litanie là. Les éditocrates venaient nous expliquer que les étudiants et étudiantes mobilisés étaient évidemment pas concernés, mais on a aussi une petite variante, à savoir, mais pourquoi donc les lycéens qui sont les premières concernées ne se mobilisent-ils et elles pas? Et donc les exemples ne manquent pas, ça a vraiment été un marronnier. Je renverrai simplement une émission qui est devenue un peu célèbre, parce qu'elle a fait un peu de bruit, c'est sur LCI 24 Pujadas, animée par l'éponyme et inanérable David. Le 20 avril, il reçoit dans un plateau équilibré en toute horizontalité une étudiante mobilisée d'une université parisienne à débattre avec Romain Goupil, un 68ard repenti, Eugénie Bastier, éditorialiste d'extrême droite, Robert Ménard, d'extrême droite tout court, et Yael Gauz, un journaliste sur France Inter et sur Twitter. Et ce dernier, donc, avec David Pujadas, il incarne un peu la neutralité, la modération du débat. Et c'est pourtant lui qui épaule un peu Ménard et Bastier dans leurs attaques contre la gréviste lorsqu'il pose la question suivante, à savoir, je le cite, « Comment vous expliquez qu'aujourd'hui le mouvement lycéen n'embraye pas avec vous alors que ce sont les premiers concernés? C'est eux qui vont connaître les effets de cette loi ORE. Comment ça s'explique? Pourquoi vous n'arrivez pas à les convaincre ?» Et donc là, l'étudiante, elle tente un peu d'argumenter, de donner son point de vue malgré les interruptions, et le journaliste finalement se charge de la conclusion sous forme d'une suggestion. Mais peut-être que les bons arguments, vous ne les avez pas. Donc ça, voilà pour le premier biais du déconcerné. Le deuxième biais, c'est qu'on prend globalement la jeunesse pour incapable de raisonner par elle-même. Elle serait manipulée, victime un peu coupable des infiltrations et autres manipulations de l'extrême gauche. Et sur le site d'Acrimed, le camarade Frédéric Lemaire a relevé pas mal d'exemples allant dans ce sens-là, et notamment celui-ci qui est assez croustillant, Nathalie Saint-Cric, qui demande au député François Ruffin sur France Inter le 15 avril, je la cite, « Est-ce que vous pouvez vraiment présenter ce qui bloque les facs comme des étudiants en détresse? N'y a-t-il pas une tentative, gauche ou extrême gauche, de noyautage? C'est pas un fantasme. Il y a manifestement, d'après ce que j'ai lu dans Le Monde, ce qui est peut-être faux, 800 à 1200 personnes qui bloquent et qui font partie de l'ultra-gauche et qui noyautent le truc, qui ne sont pas vraiment des étudiants. » Bon, en fait, quand on fait la généalogie de cette information, entre guillemets, qui prend souvent la forme d'une question faussement naïve, on voit qu'elles sont issues, ces informations, de notes de renseignements territoriaux ou de notes de préfecture qui sont reprises pour argent comptant dans divers médias. Et donc, en bref, hein, comme pour Emmanuel Macron, pour les tenanciers des médias dominants, les contestations seraient instrumentalisées, voire organisées par une poignée de professionnels du désordre, suivies par des hordes d'abrutis suiveurs et suiveuses. Troisième et dernier biais, pour conclure, c'est de qualifier les étudiants et étudiantes mobilisés de minoritaires, ou mieux d'ultra-minoritaires, parce qu'ils sont à la fois ultra et minoritaires. Pour rester dans l'exemple déjà évoqué là, du plateau de Pujadas du 30 avril, l'animateur, donc David Pujadas, qui incarne, je le répète, hein, la mesure, la neutralité dans ce débat où il y a quand même plusieurs figures très politiquement marquées, il demande à la gréviste, à l'étudiante invitée, je le cite, « Est-ce que vous jugez illégitime cette évacuation ?» Donc sa fac venait de se faire évacuer par la police. « Est-ce que vous jugez illégitime cette évacuation à partir du moment où, de toute évidence, il est établi que cette occupation, elle était très minoritaire parmi les étudiants ?» Et donc, avec son art de la synthèse, Pujadas fait écho, en fait, à un jugement de valeur, parce qu'il n'est pas établi sur des faits, hein, ce jugement, très répandu parmi les professionnels du commentaire. Donc on pourrait relever plein d'autres biais et plein d'autres exemples, notamment je pense au paternalisme, à l'infantilisation dès qu'on parle de ces mobilisations, à des accusations abusives, à des indignations très sélectives, mais qui toutes, en fait, elles charrient le même degré de dépolitisation qu'on retrouve évidemment dans le traitement médiatique des autres secteurs en lutte, comme Pascal l'évoquait avec les cheminots.
Et oui, je vous propose, il nous reste 15 minutes, de continuer à parler médias. On va commencer d'abord par ce qui a mal été, ce qui peut-être ira mieux, avant de terminer sur une... Enfin, je vais terminer. Donc, vous allez voir, on va parler pif sur Gadget. Mais d'abord, nous allons parler de la revue 21 de 6 mois et de l'Hebdo. L'Hebdo, vous vous souvenez, c'est un média qui a été lancé par l'équipe de 21 et 6 mois. C'est-à-dire par la société Rollin Publications, hein, et qui a fermé. Je vous rappelle que l'Hebdo s'est fait sans le H, hein, si vous vous souvenez bien. S'est fait surtout connaître pour son papier sur Monsieur Hulot et une agression sexuelle. Papier qui avait été critiqué pour son manque de rigueur journalistique.
Oui, parce qu'a priori, ça a été quand même... Même les pires ennemis de Nicolas Hulot sont pas arrivés à retrouver matière avec cet article et avec ce qu'il pouvait y avoir dans contre Nicolas Hulot. C'est pour dire.
Ce qui est dommage, c'est que si jamais une femme effectivement s'est fait agresser, c'est pas ce papier-là qui l'a aidé. En tout cas, soyons bien conscients et conscientes de tout ça. Donc c'est un hebdo qui a été lancé le 12 janvier dernier, qui a eu 11 numéros et qui donc s'est arrêté au mois de mars. Hein, ça a été rapide et emballé tout ça. Les critiques, elles sont multiples. C'est d'abord que Il y a eu 53 000 numéros pour le premier, et puis on a terminé à 8 000, 10 000, un truc comme ça. Et qu'il n'y a eu que 8 000 abonnés, là où il aurait fallu en avoir 70 000. C'est-à-dire que, en fait, dès le départ, l'équipe a cru que ça allait le faire financièrement. Et que ça allait monter en puissance. Mais il n'y a pas eu un plan financier qui s'est dit, si jamais ça ne démarre pas vite, qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que ça a vidé la trésorerie l'hebdo, et ça a vidé la trésorerie de 21 et de 6 mois qui se sont retrouvés en galère, dont je vais parler juste après.
Oui, qui sont deux revues, elles, de qualité pour le coup.
Ah oui, alors c'est bien sur ça que comptait l'hebdo, c'est-à-dire se créer un hebdomadaire sans publicité, indépendant, généraliste, et en même temps accessible au plus grand monde. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se baser sur les lecteurs et les lectrices de 21 et de 6 mois. 6 mois, si vous ne connaissez pas, c'est une revue sur les avec des photos dedans, sans publicité. C'est vraiment du reportage photo, c'est vraiment magnifique, ça donne enfin de la place aux photographes. Et 21, il n'y a pas de photos, c'est tout du dessin avec de très très longs articles très travaillés, que moi j'aime beaucoup beaucoup. C'est des trucs très épais qu'on trouve en librairie. Ça coûte un petit peu, il faut bien le dire aussi, hein. Mais voilà, il n'y a pas de publicité, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut du vrai travail aussi de reportage et de journalisme à l'intérieur. En tout cas, moi c'est ce que j'appréciais dans ces deux revues. Et l'hebdo a essayé en même temps de rameuter les lecteurs et les lectrices de ces deux publications, tout en même temps de en tentant de devenir grand public, ce qui n'a pas marché puisqu'il y avait à la fois des journalistes de ces deux publications qui sont arrivés, puis des gens qui sont arrivés de l'extérieur. A priori, l'équipe rédactionnelle n'a pas bien fonctionné, et en plus de ça, ça avait un peu le derrière entre deux chefs, c'est avec cette expression que j'aime beaucoup, ce qui fait qu'on était un peu à la fois Madame Le Figaro et puis un article assez poussé d'un reportage d'un grand magazine, vous voyez, donc on avait un peu de tout, ce qui fait que finalement les lecteurs électrices des deux publications 21 et 6 mois se sont pas retrouvées dans l'hebdo, et puis en même temps d'autres qui auraient pu peut-être être le fameux grand public, c'est toujours un peu insultant hein, quand on entend ça, n'ont pas été vers cette publication gratuite et sans publicité du moins. Ça a pas séduit, et puis à l'intérieur ça s'est pas mal engueulé. D'ailleurs l'article sur Nicolas Hulot, ça a beaucoup débattu jusqu'à l'engueulade pour savoir s'il fallait sortir ou pas ce papier. Et donc, je vous rappelle, c'est Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry qui avaient monté cette affaire. Saint-Exupéry, un ancien du Figaro, mais qui faisait du grand reportage.
Moi, j'ai lu à l'époque ces articles qu'il écrivait sur la guerre, sur le massacre au Rwanda. C'était le seul qui faisait des vrais articles avec des vraies informations, quand même.
Non mais il y a eu du
comme quoi dans le Figaro une fois sur 50 000 articles,
papier, tu tombes sur
un truc.
Il faut bien se dire qu'il y a quand même eu une époque où le Figaro avait des vrais journalistes. Simplement, t'étais peut-être pas d'accord avec eux. Mais comme le Figaro, comme le Monde, excusez-moi, tous les médias en sont un peu aux mêmes problématiques. C'est qui écrit et pourquoi faire. Donc je vous disais donc que le 21 et 6 mois se sont retrouvés avec une trésorerie vidée par cette hebdo. Et heureusement, 21 et 6 mois sont sauvés, puisque c'est un consortium, on va le dire comme ça, entre Le Seuil et les éditeurs de La Revue Dessinée et Topo, qui ont décidé de reprendre ces deux publications, ce qui veut dire que le numéro de juillet de 21 et le numéro de septembre de 6 mois vont paraître, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est 350 000 euros hors dette, hein, donc c'est pas non plus absolument délirant, mais enfin voilà, c'est ce que ça vaut. La difficulté, c'est que il y avait 63 salariés à Rollin Publications, et que il y en a que 15 qui vont être conservés, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 48, vous aurez fait le calcul, qui vont se retrouver à la rue, dont certains et certaines qui s'étaient investis dans ce nouvel hebdo, et qui sont très en colère parce que ils se sont rendus compte après coup finalement que le montage avait été très très mal fait, et se sont embarqués dans une aventure qui n'avait même pas de sens dès le départ. Bon, on sait très bien que 21 et 6 mois perdus, enfin moi je suis plutôt satisfaite, c'est plutôt bien quand de la bonne presse arrive à exister. On va voir évidemment quelle qualité éditoriale va pouvoir exister, perdurer hein, dans ces deux publications. Il faut savoir qu'il y avait eu 5 offres hein, quand même pour la reprise de 21 et 6 mois, et c'est 7 offres qui avaient été soutenues par les salariés. Donc pour une fois, le tribunal de commerce de Paris a bien suivi la volonté des salariés, ce qui est plutôt bien, mais il y avait une proposition du groupe du Monde par exemple, pour citer que cette proposition. Donc c'est une bonne nouvelle malgré tout que cette revue existe, que cette reprise existe pour ces deux revues. On pourrait citer que par exemple vraiment autre hebdo qui avait été lancé le 21 mars dernier s'est arrêté le 8 mai dernier, Hein, donc là, ça a été encore plus rapide. Pouf, ça avait été monté par Jules Lavie, ancien journaliste à France Info, et Julien Mendez et Julie Morel, des conseillers ministériels de M. Macron. À Bercy, le machin n'a pas marché du tout. Et aussi, il voulait faire un truc différent et que ça allait y aller et tout, sauf que lui, mai dernier, ça s'est arrêté. 11 numéros et hop, on rentre à la maison.
Ça s'appelait comment ?
Vraiment. Ah, vraiment raté, ça s'appelle maintenant.
Jamais vu ce truc.
Et puis, je vais terminer avec une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans la nostalgie, un peu comme nous. Pif va revenir, mais sans gadget.
Mais alors, Pif, ils reviennent tous les.
Alors, effectivement, tu as raison. Il y avait eu une relance entre 2004 et 2008 qui s'était terminée avec une petite liquidation judiciaire. C'est le journal L'Humanité qui détient la marque et qui, depuis quelques années, a sorti des hors-séries qui se sont pas trop mal vendues. C'est une création 1969 quand même, donc ça parle à plein de générations.
Ouais, aux vieux en tout cas.
En tout cas, oui.
Ah ouais, c'était
l'idée
génial,
c'est que ça revienne en kiosque pour les 8-12 ans le 3 octobre prochain, sans gadget, je vous le disais, puisque l'idée là c'est que c'est le magazine lui-même qui va être un gadget. Apparemment ça va se déplier en accordéon, si j'ai tout compris le truc, et que c'est ça qui va être drôle et qui va être le gadget. Hein. Bah écoute, on l'espère, moi j'attends ça. Et puis il va y avoir quand même quelques changements. A priori, Pif et Hercule ne vont plus se taper sur la tronche tout le temps. Mmh. Ils vont être sages, bien élevés, c'est avec du respect, de la protection des droits sociaux, de l'environnement, des droits humains. Donc ils vont plus se taper sur la tronche. Bah, moi, c'est ça qui me marquait quand j'étais gamine.
Dans Pif Gadget, effectivement, quand on relit même les BD qu'il y avait dedans, comme Raon, tout ça, c'est pétri d'idées de gauche en fait dedans. C'est, alors que c'est un guerrier un peu à la Conan le Barbare, mais un Conan le Barbare de gauche en fait.
Oui.
C'était un peu ça, quoi.
Et là l'idée va rester, sauf qu'il n'y aura plus ces moments un petit peu de bataille entre eux, entre les uns qui se courent derrière les autres et tout ça. Hercule qui s'en plante un peu plein. Hercule, je vous rappelle, c'est un chat, si vous aviez oublié. Et Pif, donc le chien va être habillé. Ah oui, parce qu'on est quand même un peu dans l'ère du politiquement correct, donc c'est comme un peu Mickey Mouse, on va lui mettre de la culotte, parce que, l'entrejambe, on sait jamais si on pouvait avoir des idées de ce qu'il y a par là-bas, alors que c'est pas dessiné quand même, mais maintenant, que moi quand je pense toujours que quand on habille le personnage, ça donne encore plus l'idée d'aller savoir ce qu'il y a sous la culotte, mais ça, c'est peut-être mon côté un petit peu curieuse, je sais pas, voilà, mais je me demande toujours pourquoi on veut habiller des personnages de chien et de chat. Enfin bon, voilà, il y a une campagne de financement, comme tous ceux que je vous avais parlé, vraiment, l'hebdo, tout ça, il y a des campagnes de financement participatif qui sont lancées. Ben là, c'est le cas aussi pour ce renouveau de PIF, c'est sur KissKissBankBank. Alors là, évidemment, c'est l'humanité qui joue un peu sur ce côté soyons de gauche et aidez-nous à faire revivre PIF, sans le gadget, mais PIF tout de même. Voilà, moi, je regrette quand même qu'il n'y ait plus ce gadget, parce que moi, je me souviens, gamine, j'avais eu des graines pour faire pousser un arbre, ma mère,
c'était pas du tout
d'accord. Et ben, on a eu un arbre, je te jure, qui faisait 1m50 sur le balcon. Et on a eu. Enfin, moi, ça reste des souvenirs absolument magnifiques. Je suis déçue qu'on n'ait plus les petites choses à côté, parce que ça faisait partie aussi d'une autre époque. Mais il paraît que l'idée, c'est qu'après, avec ton smartphone, parce que c'est pour les petits-enfants, ils vont pouvoir jouer avec et avoir une réalité augmentée. C'est le 21e siècle, c'est fini, la petite graine dans son sachet en plastique que tu vas pouvoir mettre dans la terre et planter. C'est la concurrence à YouTube, paraît-il.
Effet Bolloré après ?
Je vais plutôt parler d'une grève. Il y avait une grève à l'étudiant. Vous savez, c'est un magazine qui organise aussi des salons. Ça a tout son sens. Il y a un mouvement de grève qui a été lancé le 18 juin, le lundi 18 juin. Alors, il y a eu surtout du débrayage, il faut le dire. Mais ça a touché la moitié de la centaine de salariés de l'étudiant. Alors, l'étudiant, maintenant, il n'y a plus de version papier. C'est plus que sur Internet. Mais en même temps, les abonnés ont toujours une version papier. Il faut suivre quand même avec le cerveau. Alors, en plus, ça a été racheté par McLaughlin à SFR en avril 2017. Donc déjà, les pauvres chéris, on en avait parlé déjà à l'époque, ils n'arrêtent pas de se faire trimballer, ils font bien le dire. Au-delà du fait qu'il y a déjà une trentaine de personnes, tous métiers confondus au sein de l'étudiant, qui sont déjà partis, on leur explique qu'il y a 51% du capital qui va être vendu à Comexposium. Comexposium, ça vous parle? Non. C'est une entreprise d'organisation de salons. Donc l'idée, c'est que maintenant, l'étudiant ne soit plus qu'un truc de salon et d'organisation, donc pour accueillir des étudiants et des étudiantes, bien évidemment, mais que par contre, le côté rédactionnel, ça soit un peu fini. Donc il y a quand même encore des gens, hein, qui ont encore une équipe rédactionnelle.
Pourtant, il y a un intérêt, parce qu'on rappelle que le gouvernement a supprimé les CIO, donc s'il ne reste plus l'étudiant, ça va être compliqué pour les lycéens, quand
ouais,
même. Hein.
Et puis, ben voilà, c'est quand même aussi, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, c'est quand même encore une fois un papier qui s'en va, et puis après un média qui s'en va, hein, sur Internet. On aurait pu aussi, on a parlé de la grève à BuzzFeed, vous savez, ce machin pas très très bon.
Ouais, mais qui avait un certain succès quand même.
Mais qui a un très fort succès. Alors il paraît que pas assez, puisque c'est, je vous rappelle, une filiale des États-Unis d'Amérique. Hein. En France, on a BuzzFeed, donc en français. Mais il paraît que ça dégage pas assez de recettes publicitaires, puisque le but, évidemment, de toute cette plateforme, c'est ce qu'on appelle un pure player, mot que j'adore. Donc c'est un fourre-tout. Moi, j'ai traduit ça comme ça. Je sais pas ce qu'en pense l'Académie française, mais donc sur le pure player, le fourre-tout, c'est le but, c'est quand même de nous vendre de la, enfin de nous fourguer de la pub, et donc les recettes viennent de là. Il paraît qu'en France, ça marche pas assez. Pourtant, les équipes françaises ici avaient rappelé plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique que ça serait bien qu'il y ait des équipes commerciales ici en France qui connaissaient peut-être mieux le marché français que des gens qui travaillent à l'autre bout du monde, hein, qu'il faut passer un océan, et que du coup, ça aurait peut-être permis, si on avait eu une équipe ici en France, bah, peut-être de développer mieux des recettes. Alors, on aime ou on n'aime pas BuzzFeed, mais enfin, il y a quand même des salariés, 14, qui risquent de se retrouver à la rue. Il y a le tribunal de grande instance a suspendu les licenciements, puisque les salariés se sont mis en grève illimitée le lundi 25 juin pour contester donc ces licenciements. Le TGI a suspendu pour l'instant les licenciements en demandant à l'entreprise des États-Unis d'Amérique de fournir les justificatifs de pourquoi est-ce qu'il faut licencier ces gens, puisque les salariés ici estiment que ben, on leur dit qu'ils sont licenciés, mais pourquoi, comment, c'est quoi les arguments, à part de, il n'y a pas de recette publicitaire suffisante, voilà, et tant mieux, le juge est allé dans leur sens en disant qu'effectivement l'entreprise américaine doit donc aujourd'hui sortir des papiers explicatifs. L'idée, c'est ensuite de montrer qu'il y a un copilotage avec les États-Unis d'Amérique, et donc de montrer qu'ils étaient à la fois sous un droit français, mais aussi un droit des États-Unis d'Amérique, et donc de montrer et d'attaquer aussi, pas juste en France, mais aussi aux États-Unis, voilà, bah, pour peut-être essayer d'avoir plus de sous, et ils ont bien raison, hein, ça je vous le dis. Voilà, c'était ce que j'avais à dire un petit peu en plus. Et puis pour dire Bolloré, ben, c'est que les guignols, c'est fini. Alors est-ce qu'on est triste que les guignols, excusez-moi, de Bolloré s'en aillent? Non. Par contre, c'est vrai que c'était quand même 30 ans d'antenne et qu'il faut se souvenir que c'était un ton irrévérencieux qui s'attaquait autant au pape qu'aux politiques qu'aux sportifs qu'aux journalistes, et que ça a marqué aussi des générations comme les gadgets.
Mmh. Avant qu'il vire Gassio, grosso modo, hein, c'est un peu ça le moment où ça bascule du mauvais côté.
Et ben là, c'est surtout qu'en plus Bolloré, il avait fait un truc avec Kim Kardashian et que des star people, et que bah, évidemment il y avait plutôt de critiques politiques. Voilà, c'était juste que dit ciao, bonsoir, c'était fini. Mmh.
Il nous reste une minute, est-ce que tu as un agenda?
Pas du tout.
Moi non plus, j'ai pas regardé en fait. Il y a sûrement des choses à faire. On vous laissera aller voir sur le site de Rebellion, mais là, moi, j'ai pas d'infos.
Eh ben, en tout cas, on était bien contents, Vincent et Pascal, de vous avoir pour Acrimed de 69 encore une fois. Merci. Je vais faire mon petit appel de la semaine dernière. Vous irez sur le site, très bon site, hein, d'Acrimed National. Vous retrouvez toutes les infos que d'ailleurs dont tu parlais sur la SNCF. Il y a eu plein d'articles, c'était très bien. Pour aller voir l'appel à dons. Coucou, Acrimed a besoin de sous et nous on soutient. Et voilà. Et puis voilà, ouvrez vos porte-monnaies si vous avez des sous, si vous n'en avez pas, parlé, adhérez, il y a plein de moyens de soutenir, on en a déjà parlé la semaine dernière. Voilà, c'est bien, allons-y.
Et ben voilà, on va vous laisser en compagnie de la petite cuillère.
Et oui, ce soir.
Et voilà, le Canyon Info du jeudi reviendra bientôt.
Ouais, bientôt.
Le jeudi à 19h. Et sinon, le prochain Canyon Info, normalement, c'est demain à 19h.
Avec une autre équipe.
Voilà.
Ciao, bonne soirée à tous et toutes.
Merci d'être venu.
Bonsoir, merci à vous.
Ciao.